Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue sur Backstreet, bonsoir, incroyable. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backstreet, cher public, vous êtes merveilleux, merci d'être là, merci de soutenir Backstreet. Bonsoir, bonjour à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch, bonjour si vous nous regardez en replay sur la YouTuberie, bonjour si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver pour cette très belle émission, on va encore parler de politique toute la soirée, trop bien. Et je suis pas tout seul puisque je suis avec la chroniquerie la plus formidable. Bonsoir Sacha, comment
ça va? Ça va et toi?
Bah ça va, écoute Sacha, journaliste au JDD. Ça se passe bien.
Il y a du budget, on est trois du même côté là.
Oui, t'as vu, ouais, c'est incroyable. Ouais, parce qu'on a des invités qui vont arriver tout à l'heure et tout. Journaliste au JDD, je le disais, c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai publié une tribune dans le journal du dimanche il y a quelques semaines.
La connexion,
incroyable.
Très bonne crénue.
Donc très bon journal, il y a des très bonnes tribunes dedans.
Oui,
on va revenir. À côté de toi, on est avec Antoine. Salut Antoine.
Salut Jean.
Antoine Bristiel, tu es directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès, qui est un groupe de réflexion plutôt à gauche, on peut dire.
Oui, disons-le hein, quand même.
Ouais, ok, d'accord. Ça va toi?
Ça va bien. Et j'ai eu une expérience traumatique hier. J'étais sur un plateau sur France Info TV. Il y avait le fondateur d'Atlantico. Je m'en suis toujours parmi.
Ah merde, ah c'est ouais, dur ça.
C'est
Atlantico, c'est un site internet d'information libéral conservateur. On
oui,
peut dire
mais,
ça comme ça.
Mais le gars surtout.
Ah le gars, je sais pas, je connais pas. Écoute, bienvenue sur Backseat. à côté de toi, Usul. Salut Usul.
Macron en démission.
Ouais, ouais. Ça fait plaisir de te voir, Usul.
Ouais, ouais, ouais.
Dis donc, deux semaines de suite.
Bah ouais.
Bon, attends.
Bah comme ça, je rattrape. Moi, ça me fait des cachets.
Il faut faire rentrer le pognon.
Honnête. Ouais.
Faites des dons, hein. Usul, chroniqueur sur Mediapart. Mmh. Chroniqueur pour Blast, notamment via les portraits. Également sur le projet des Marioles. Mmh. Et chroniqueur sur Backseat.
Tout ça, ouais, ouais, ouais.
Très heureux de te retrouver, de vous retrouver tous les trois pour cette chouette émission. Je vous rappelle qu'au menu de cette émission, nous allons accueillir en première partie d'émission dans quelques dizaines de minutes des premiers invités qui vont nous parler d'un sujet grave qui est l'homophobie, 10 ans après l'adoption du mariage pour tous. Un documentaire va sortir la semaine prochaine sur Mediapart. Ils vont venir nous en parler, on parlera de ce documentaire. Et dans la deuxième partie d'émission, nous retrouvons notre invité politique de la semaine. Il s'agira de la députée Clémence Guettet, dirigeante par ailleurs, vice-présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale et dirigeante désormais bien connue du mouvement. Elle viendra répondre à nos questions et vous retrouverez évidemment la chronique d'Adèle, vous retrouverez le PowerPoint de Vincent. Bref, que du beau au cours de cette émission. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est bon, vous avez dit bonjour, tout
donner,
ça.
Donner des sous.
Hein, de quoi?
Donner des sous.
Donner du pognon, c'est important. Ouais, d'ailleurs, tiens, on va le redire. Bonsoir, bienvenue sur Backseat. non, on va le redire. On a changé de plateforme de financement participatif. Pour ceux qui sont passés à côté de l'information, la plateforme sur laquelle on recevait des dons jusqu'à présent, c'était Utip. Utip a malheureusement dû mettre la clé sous la porte. Nous avons donc migré vers les copains de KissKissBankBank. Vous retrouverez dans le chat, en description de cette vidéo YouTube, un lien qui vous permet de participer, vous aussi, au financement de cette belle émission pour nous permettre de continuer cette saison de Backseat tous les jeudis avec une émission toujours plus belle. Merci pour la perche tendue, Sacha. Parfait, incroyable. On en attaque direct avec les sujets de la semaine, c'est parti?
Ah oui, hein.
Ah bon.
Allez, c'est parti, les sujets de la semaine, let's go. Alors, dans l'actualité, cette semaine, nouvelle journée de... C'est toujours le jeudi, hein. J'ai l'impression que l'intersyndicale, ils font exprès que c'est le jour de Backseat pour qu'on puisse en débriefer sur le plateau, j'ai l'impression.
Évidemment.
Nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. 400 000 manifestants à Paris selon les syndicats, 1 million en France selon la CGT, 380 000 selon le ministère de l'Intérieur. Des manifestants, dont je le disais, partout en France. Et ce matin, on a vu des images du Conseil constitutionnel qui était... qui avait une opération...
Ah, ça t'a choqué, ça.
On va en parler. On a des images, je crois, du Conseil constitutionnel. Non, on n'a pas d'image. Eh ben, imaginez. On n'a pas d'image. Imaginez le Conseil constitutionnel bloqué. Non, il y a eu une petite opération par quelques militants de blocage revendiqué comme tel du Conseil constitutionnel à Paris, alors que nous attendons demain la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Et effectivement, au réveil, moi, j'ai vu ça, j'ai fait... Bah non.
T'es dans ton lit, t'as même pas encore mis tes lunettes, t'as fait « qu'est-ce qu'ils font ?» C'est n'importe quoi.
Tu sais, c'est les tweets du matin, ceux qu'il faut pas faire. Et moi, je le sais qu'il faut pas que je tweete le matin. Bah là, j'ai tweeté ce matin et j'ai dit « Non, on fait pas un recours pour ensuite bloquer la... » Non. Et
c'était pas vraiment bloqué, il y avait des poubelles, c'était pour faire style « on est là ».
C'était symbolique, voilà. C'était mignon. On peut lui dire qu'ils sont bourgeois ou pas?
Oh, le sauce d'aime, oh là là. Non, mais attends, excusez-moi, le symbole qui consiste, même rien que symboliquement, blocage d'une juridiction dont on attend une décision, je trouve pas ça ouf. Et je trouvais pas ça ouf quand c'était les syndicats de policiers qui le faisaient au tribunal de Bobigny pour se plaindre des magistrats qui étaient trop à gauche selon eux. Je trouve ça pas ouf quand c'est des militants de gauche qui le font sur un conseil constitutionnel. Critiquable au demeurant, mais à tous les étages. Hein,
bah maintenant, il y a les flics. Tu préfères les flics?
Non, je préfère pas les
flics. Déranger de flics devant.
Non, putain, ouais. C'est vrai que l'image est dingue. Hein, les quantités de casques de CRS là devant le. Non, je sais pas. Est-ce que la fin justifie les moyens? Voilà. Usul, bah vas-y, on va régler nos comptes, Usul. Est-ce qu'il faut bloquer le Conseil constitutionnel?
Mais il n'est pas bloqué, il y a des poubelles devant, c'est tout. Et les gens qui sont là, ouais, pour un peu mettre la pression, pour dire, on rappelle qu'on est là, rien de bien méchant. Voilà, c'est politique, c'est un geste politique. Laurent Fabius, il a pu rentrer, je pense. Hein.
Je pense qu'il n'était pas au bureau, surtout je pense que la décision a été prise il y a 5 jours et qu'ils l'annonceront demain.
Oui, conférence de presse à 17h40.
Yes.
Apparemment, évidemment. C'est la première fois qu'ils font une conférence de presse. Il va falloir expliquer leur truc. C'est vrai que d'habitude, les décisions du Conseil.
Ils font très rarement de conférences de presse.
Voilà, sont rendues par écrit. Ça circule sans qu'ils aient à s'expliquer vraiment. Enfin, c'est justifié par écrit. Mais il n'y a pas de blabla et de conférences de presse. Ça veut carrément dire que les journalistes vont pouvoir poser des questions.
Oui, ouais, bien sûr. Mais, enfin, moi, les seules conférences de presse du Conseil constitutionnel, en général, c'est quand il y a une élection le lendemain. Ils lisent les résultats. C'est chiant à mourir, il ne se passe rien. Merci, au revoir. Et là, effectivement, le Conseil constitutionnel fait une conférence. Je ne sais pas si je pourrais la streamer, je ne pense pas. Putain, je n'ai jamais fait ça, moi, stream du Conseil constitutionnel. Incroyable, on innove. On verra si je fais ça demain. Mais Conseil constitutionnel, donc, qui va rendre sa décision. On n'en attend pas, quand je dis on, le mouvement. Contre la réforme des retraites, on n'attend pas grand-chose de cette décision, puisque, a priori, il n'y a pas grand-chose de contraire à la Constitution dans le fait de reporter l'âge légal de départ à la retraite. Ça a déjà été fait par le passé en France, c'est un pouvoir de l'État, via la Constitution, via le financement de la Sécurité sociale, ce n'est pas en soi contraire à la Constitution. Il y a en revanche une attente, mais qui... plus une attente qui excite les blocs de constitutionnalistes en ce moment, sur y aura-t-il une innovation jurisprudentielle sur la méthode qui est celle qu'a suivi le gouvernement pour obtenir cette réforme. Ils ont fait un usage d'outils constitutionnels, certes, mais en ont-ils fait un usage constitutionnel? Là est la question que vont devoir traiter les sages de Montpensier, de la rue de Montpensier, dont on attend la réponse pour demain. Est-ce que vous pensez qu'on est à la veille d'une annonce rocambolesque où le Conseil constitutionnel censure la réforme des retraites?
Annonce rocambolesque et Conseil constitutionnel, c'est quand même deux choses.
Ils ont fait des trucs ouf par le passé quand même. Hein. Ouais. Ils ont censuré la CNIL, la loi Hadopi par exemple. Ouais, non, il y a eu. Ouais, à l'époque, c'était Debré, il foutait le bordel, mais.
Un vrai
quand il s'y met, le Conseil constitutionnel, il peut faire des conneries, mais. Enfin, des conneries, je veux dire, innover.
Oui. La décision, elle est pas seulement juridique, il y a quelque chose de politique. Derrière, ils prennent une responsabilité aussi, quoi. Et parce que là, on se dirige aussi, si le Conseil constitutionnel valide le truc, vers un week-end de feu de poubelle. Hein. Ça va être chaud. Hein. Donc, c'est eux qui ont aussi le pouvoir de débloquer la situation où tout le monde s'en sortirait avec les honneurs. Tout le monde s'en sortirait avec. Le gouvernement dirait.
C'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais t'as raison. Oui. Chacun
garderait la place. Ils peuvent désamorcer la situation.
Mais c'est pas son rôle au Conseil constitutionnel.
C'est pas son rôle, il l'a déjà fait par le passé, quand il valide des comptes de campagne qui sont pas du tout, viables, alors qu'en fait, il faudrait refaire l'élection si on était vraiment dans le texte.
C'était pour sauver la droite à l'époque, c'était pas pour sauver la France.
C'était pour sauver la droite, c'était pour sauver, Balladur, Chirac, je sais plus. Et voilà, ça c'était une décision politique.
Oui, c'est vrai. Qui
n'est pas censé l'être, pour le coup.
Ben non, qui n'est pas censé l'être, mais pour autant, c'est pas le rôle du Conseil. En fait, le gouvernement met le Conseil constitutionnel dans une position qui ne devrait pas être la sienne. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel de calmer la rue, d'apporter des réponses politiques. C'est ça aussi le drame, c'est qu'on se retrouve de fait à politiser le Conseil constitutionnel.
Est-ce que ce n'est pas le dernier adulte dans la salle, hein, qui va dire...
Je déconne, mais ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais on a déjà vu le Conseil d'État censurer des arrêtés d'interdiction de manifester, par exemple, récemment. Ouais. Donc c'est intéressant.
Mais moi, j'ai une vraie question. Usul, tu dis que, et je me la suis posée quand on était en réunion tous ensemble hier, tu dis que si le Conseil constitutionnel ne censure pas, ça va partir tout le week-end. Quoi. Tu ne penses pas que ça va avoir l'effet inverse et qu'on va se dire justement la dernière juridiction de cet État
Tu disais déjà ça pour le 49-3.
Non, mais c'est une vraie question. Hein,
on disait déjà ça pour le 49-3. Si la loi est votée, les gens ils vont se calmer, la CFDT va se calmer.
Bah, c'est ça, on sait que la CFDT elle va se ranger derrière l'avis du CC. Pour le coup.
On va voir.
Est-ce que c'est la CFDT en ce moment qui met vraiment l'ambiance dans les rues? Je n'ai pas l'impression. Enfin,
Oui, tu avais des images où tu avais pas mal de jeunes aujourd'hui qui refusaient justement de marcher derrière la CFDT. Et je pense que ce qui peut se passer, c'est que...
Ça, c'est ma vidéo, ça.
Et, mais oui, tiens,
abonnez-vous.
C'est que tu peux avoir une, un déclin de la mobilisation plus classique avec les syndicats type CFDT qui arrêtent les frais, mais par contre une certaine radicalisation du mouvement et comme tu disais, plus de, un week-end de feu de poubelle comme on avait vu finalement après l'utilisation du 49.3 où les gens se disent bon, ça commence à bien faire cette histoire.
Mais ça va poser une vraie question stratégique après au syndicat, c'est quoi la suite quoi.
Oui. Alors on va en parler, justement. Il y a une note qui a été publiée par la Fondation Jean Jaurès, l'excellente Fondation Jean Jaurès finalement, une note qui s'intitule « À qui profite la crise ?» et qui analyse, qui tire le mieux les marrons du feu de cette crise politique autour de la réforme des retraites. Quels en sont les résultats, Antoine? Ils sont assez...
Ah oui, mais normalement, il y aura un petit graphe qui va apparaître et ce serait génial parce que j'adore les petits graphes, mais s'il n'apparaît pas, je peux faire sans petit graphe. Mais en gros, c'est une note qui.
Waouh!
Mais t'as vu, c'est beau. Hein.
Non, c'est beau, c'est incroyable.
C'est Excel, un beau logiciel. En gros, ce que l'on voit, c'est un sondage qui compare le résultat des législatives en juin dernier avec un sondage qui a été fait par l'IFOP il y a quelques semaines. S'il y avait une dissolution, quels seraient les rapports de force politique? Et ce que l'on voit assez clairement, c'est que Macron, le bloc macroniste est autour d'une renaissance. Enfin voilà, c'est une vraie baisse de 4 points. À côté de ça, la NUPES reste stable à 26%. Et tu as une vraie explosion, par contre, du RN qui passe de 19 à 26%. La première chose qu'on peut dire, je pense, là, c'est que pour le bloc macroniste, c'est une situation qui est complètement différente de celle des Gilets jaunes.
Parce
que,
pourquoi ?
Ben justement, cher ami, quand tu prenais à l'époque des Gilets jaunes les sondages pour les européennes de 2019 qui étaient faits avant la crise des Gilets jaunes et après la crise des Gilets jaunes, Macron, la liste menée par Emmanuel Macron, en tout cas la liste présidentielle...
La Télé Loiseau, elle s'appelait.
Cette personne, en effet. Et elle avait pris 3 points dans les intentions de vote.
D'accord. La liste des Gilets jaunes avait bénéficié...
En fait, oui, c'est ça. Ça avait solidifié le bloc macroniste. Il avait réussi à reprendre la main derrière avec son histoire du grand débat. Bon, finalement, il s'en était un peu sorti. Il avait réussi à s'en sortir. Mais là, c'est exactement l'inverse. On voit qu'il y a une vraie baisse de chez Emmanuel Macron. Et quand tu regardes un peu plus précisément dans quelle catégorie ça baisse, c'est partout. En fait, ça baisse partout.
Et dans tous les électorats.
Dans tous les électorats. Et à côté de ça, ce qui est extrêmement inquiétant dans la situation actuelle, c'est que le Rassemblement national, lui, il progresse également partout. C'est-à-dire que...
Dans toute la catégorie.
Dans toute la catégorie. Alors maintenant, première liste chez les femmes, le Rassemblement national.
Ok.
Donc on en est là. 50% de mémoire chez les ouvriers.
Bravo les meufs.
Et à côté de ça, même dans les catégories intermédiaires de la population, pas seulement dans les catégories populaires qui votent assez largement pour le Rassemblement national classiquement, mais même dans d'autres catégories de la population, tu as vraiment une progression qui est assez impressionnante et ça ressemble de plus en plus à quelque chose qui est un parti un peu attrape-tout et plus seulement un parti de niche comme auparavant. Et ça, c'est quand même assez...
C'est-à-dire que c'est devenu le refuge naturel de la contestation.
Ouais, c'est ça.
Le truc, le débouché.
C'est complètement le débouché, oui.
On vient de vivre un mois et demi
stérile,
de mobilisation massive, avec des grandes mobilisations dans la rue, des millions de personnes contre la réforme des retraites, plus de 90% des actifs qui soutiennent la contestation, une gauche unie dans la rue, derrière une intersyndicale unie pour la première fois depuis 10 ans. Pourquoi la gauche ne réussit pas à tirer son épingle du jeu, Usul.
On sort aussi d'un mois de bashing permanent de la gauche partout, quoi. Mmh. Et particulièrement de la part du gouvernement, au point que même il y a des articles qui commencent à raconter à quel point il commence à y avoir un malaise dans la majorité.
Oui,
est-ce qu'on a le droit de... comment on peut taper sur le RN un peu, ou faut vraiment être Mélenchon, LFI, Nupes tout le temps? Parce que c'est vraiment ça qu'on entend. Donc débouché-là, il nous a été vendu comme pas républicain, en dehors du cercle voilà, c'est plus la gauche, c'est l'extrême gauche, c'est l'ultra gauche, c'est les violents. Ce truc-là m'a traqué en permanence. Bon, voilà, il y a un effet derrière.
Ouais, parce que... Sacha, t'en penses quoi, toi? Mais il n'y a pas que les. Enfin, alors les médias contribuent, mais je veux dire, c'est pas que les médias qui vont dicter à l'électorat.
C'est les macronistes, là, on parle. Là.
Non, mais c'est. Oui, les macronistes, pardon, dans les médias qui vont. Qui ne vont que faire du bashing et qui vont surtout dicter aux gens qu'il faut aller vers le Rassemblement national. Je pense que la NUPES paye aussi ce qui s'est passé pendant les débats à l'Assemblée encore.
Mais non.
Franchement,
un peu,
mais si, regarde, le RN ne fait rien depuis 2 mois, l'immobilisme est total, il ne propose rien. Et en fait, c'est eux qui récupèrent tout.
Et les gens, ils sont pas en train de regarder la chaîne de Jean Massier
si,
pour
si,
regarder.
Si, si, numéro un monde, monsieur.
Pour dire, oh, bah, je vais pas voter pour la NUPES, il crie trop fort. Mais en plus, que la NUPES crie trop fort, non, les LFI surtout,
LFI
c'est une chose. Mais en fait, faut aussi tout l'appareil médiatique derrière pour venir dire la NUPES crie trop fort ou des gens comme toi
ouais, mais
qui vont
que
dire
LFI propose...
ah bah regardez,
ouais,
les gens n'aiment pas
que LFI a proposé. Non mais excuse-moi, Jules, mais à part dire la retraite à 60 ans, qu'est-ce que LFI a proposé à part avoir contesté
ça, voilà, le gouvernement fait ça aussi.
Il n'a pas proposé grand-chose.
Mais le RN, c'est devenu...
Le RN non plus n'a pas proposé, je suis d'accord avec vous.
C'est devenu un peu le premier débouché quand t'es dans la contestation par rapport à Emmanuel Macron. Mmh. Et vu que t'as un tel rejet à l'heure actuelle d'Emmanuel Macron et de sa politique, et que les gens perçoivent le Rassemblement National comme étant finalement la dernière chose qui n'a pas été essayée, ben du coup, ouais. ça va, t'as un vote qui va là-dessus. Et
ouais,
aussi,
ce que tu veux dire, ouais.
le point qui est un peu central, c'est que ça, t'as des enquêtes qui montrent que, en sciences politiques, justement, que l'inquiétude sur les conditions de travail dans les catégories actives de la population à l'heure actuelle, et pas seulement en France, dans l'ensemble des démocraties occidentales, en gros, ça favorise le vote pour les partis d'extrême droite.
On n'est pas une exception.
Non, ce n'est pas une exception à ce niveau-là. Tu as ce mouvement qui est là, et c'est justement la problématique de la gauche, on pourra sûrement parler avec Clémence Guettet tout à l'heure, mais de savoir comment faire en sorte que cette crispation-là sur ces questions-là, qui est aussi, et ce rejet que tu vas avoir du pôle libéral, puisse aller vers la gauche et non pas vers l'extrême droite.
Je reviens sur ce que disait Sacha. Il y a une autre étude, je crois que c'est aussi la Fondation Jean Jaurès qui a parlé.
On en fait plein.
Ah, mais ils tombent de l'étude toute la journée. Mais qui montrait justement qu'une bonne partie de l'électorat, y compris à gauche, était divisée justement sur la question de la stratégie. C'est-à-dire que.
C'est la mienne encore.
C'est la même étude. C'est toujours la même.
Vends-toi, vends-toi, vas-y.
Super. Mais qui disait que oui, justement, la stratégie à l'Assemblée nationale de la perturbation des débats, la stratégie de l'obstruction parlementaire, y compris une stratégie qui n'est pas voulue, mais celle des violences en manifestation. Alors, tu me diras, là, pour le coup, ça joue aussi du côté du gouvernement.
Deux choses, oui.
Ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, il y a aussi que la gauche a du mal. Peut-être aussi que la gauche est encore un peu trop divisée avec un manque de leadership, alors que le RN, tout le monde est au cordeau derrière Marine Le Pen.
C'est clair. Mais là, justement, c'est que tu as un vrai renversement dans l'opinion à ce niveau-là. C'est super intéressant parce que quand tu regardes, il y a 5 ans, les chiffres, tu avais une très large majorité des Français qui disaient il faut une majorité absolue à l'Assemblée, sinon c'est le gros bordel. Maintenant, c'est exactement l'inverse. Tu as 70% des Français qui te disent c'est mieux d'avoir une majorité seulement relative à l'Assemblée parce que justement, le pays est plus divisé et il faut pouvoir justement être dans une culture qui est un peu plus parlementariste, sauf que LFI n'est pas du tout sur cette ligne-là. Alors tu me diras comment faire pour créer du consensus dans cette séquence-là, mais néanmoins, je pense que ça a pu cliver une partie de l'opinion à ce niveau-là.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Un truc vachement intelligent, mais je sais plus.
Sûr. Moi, j'en profite, je vous recommande le Libé de lundi ou mardi, je crois, qui fait une justement sur pourquoi la gauche n'y arrive pas. Et j'ai noté cette citation qui dit « Le fond de l'air est rouge, mais les sondages sont bleu marine ». Et en fait, ce qui est quand même très bien imagé, et ils étaient plusieurs à expliquer que les manifestations, tout ça, c'était de la colère et qu'ils avaient du mal justement à politiser cette colère et la faire et raccrocher ces gens-là à la NUPES, quoi.
Je reviens aussi sur les difficultés donc qu'a la NUPES à transformer l'essai politiquement de cette contestation de la réforme des retraites. On a vécu aussi le week-end dernier le congrès du Parti communiste, l'une des composantes de la NUPES, qui a vu le... Je dois sourire, Usul. Ça arrive. Le Parti communiste français, donc, qui a renouvelé triomphalement le premier secrétaire, Fabien Roussel, malgré son très faible score à l'élection présidentielle, à peine 2,5%. Fabien Roussel, qui, je le rappelle, avait été élu à la tête du PCF en 2018, où il avait réussi, chose très rare au Parti communiste, à faire basculer la direction sortante pour avoir une nouvelle ligne au sein du Parti communiste, une ligne d'autonomisation et de réaffirmation d'une identité communiste avec un candidat pas aligné derrière Jean-Luc Mélenchon, etc. Et on a vu par la suite, et on a analysé 1000 fois sur ce plateau, la stratégie de Roussel qui consiste à avoir une voix discordante dans la NUPES, dans la gauche, pour dire les choses différemment, pour faire une campagne présidentielle très identifiée autour de lui de thématiques
de droite.
Très différentes. on s'en moquait volontiers autour du barbecue, etc. Mais toujours est-il que, semble-t-il, les militants communistes, en tout cas ceux qui sont encore là, ont validé cette ligne à 80% triomphe pour Fabien Roussel.
Je pense que les Républicains devraient étudier sérieusement sa candidature pour 2025.
La candidature de Fabien Roussel.
De Fabien Roussel, exactement. Ce serait intéressant.
Comment est-ce qu'on peut l'analyser, ce congrès du Parti communiste, Jules?
C'est la confirmation de la roussellisation du parti, ça se dit beaucoup. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la base, quand il avait été... quand il s'est retrouvé à ce poste-là, qu'il avait renversé un peu la direction précédente, il y avait l'idée de porter un projet identitaire. Identitaire dans le sens identitaire communiste. Qu'est-ce que ça veut dire d'être communiste en 2022? À quoi servent les communistes? Ils se sont posés beaucoup de questions. Ils se sont posés beaucoup de questions, notamment à partir de la chute du mur. On n'a plus nos alliés de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? On sert à quoi? Alors, il y a eu la période Robert Rue. Est-ce qu'on va dans la gauche plurielle? Oui, finalement, oui. Et puis du coup, en fait, on devient un peu des plans-plans, une composante de la gauche plurielle, des cadres un petit peu comme les autres, avec nos municipalités, puis une petite culture un peu à côté, mais on a accompagné quand même ces métamorphoses-là. Et puis au bout d'un moment, il y a eu Mélenchon. Et là, ils sont en train de se dire, bon, maintenant, on veut se réaffirmer. Enfin, c'était il y a déjà quelques années. Là, on veut se réaffirmer. Le Parti communiste doit être le parti des communistes. Et Roussel. Et Roussel est allé un petit peu au-delà de son mandat. Ouais. Parce qu'on ne lui avait pas demandé de parler de saucisses à ce point. Non, vraiment. On ne lui avait pas demandé de parler d'être ambigu sur l'immigration. On ne lui avait pas demandé ça. Mais ça a été confirmé. Mais il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu une hémorragie militante, notamment des jeunes.
Notamment les jeunes qui ont rejoint la France insoumise.
Voilà. Et là, il y a la confirmation. Et il me semble que maintenant qu'il est confirmé et que sa ligne... Parce qu'en fait, il y a un bon succès dans les médias.
C'est ça son succès.
Hein. C'est ça. Oui. Il est surinvité, surreprésenté sur les plateaux par rapport au score qu'il fait, par rapport au fait que pourquoi l'inviter lui plutôt que...
Tu sais que ça fait des jalousies de ouf au PS, par exemple.
Ah ouais.
Le PS, justement, Olivier Faure se fait taper dessus par le camp des Hollandais Canel historique, là, qui dit Olivier Faure a complètement effacé le PS, on n'entend plus le PS n'existe plus, la NUPES s'est mélanchonisée, etc. Et j'ai entendu qu'en interne au PS, il y en a qui disent, même Roussel, il arrive à être invité sur tous les plateaux de télé. Ouais. Olivier Faure, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il faut vraiment qu'il parle de saucisse pour que le PS réexiste.
Mais c'est assez logique, hein, parce que finalement, la petite ritournelle médiatique que t'entends, et moi je pense que la question m'a dû me la poser 150 fois, c'est est-ce que c'est la fin de la NUPES? Je pense que depuis juin dernier, cette question-là, c'est
encore pour 4 ans,
toutes les semaines. Et Fabien Roussel, lui, il théorise chaque fois qu'il prend la parole la fin de la NUPES. Parce que je pense qu'il passe plus de temps à taper sur la NUPES que de taper sur le gouvernement, finalement. Évidemment, ça en fait un bon client dans les médias qui disent « Ah bah oui, c'est bien la preuve quand même que la NUPES est en train d'éclater. » Mais d'ailleurs, il faudrait quand même un peu revenir sur la stratégie de Roussel, qui est pas joli quand même.
Est-ce qu'on peut voir l'extrait? Il y a un extrait mis de côté. Parce qu'il y a un extrait en particulier.
On allait en parler juste après, on regarde.
C'était même pas là-dessus.
C'était ça.
Non, c'était sur... Au moment des législatives, il accepte de rentrer dans la NUPES. Alors, Arculon, parce qu'il avait un mariage, un baptême...
Oui, il s'est discret.
Mais, en tout cas...
pas sur la photo.
À l'époque, c'était parce qu'il sentait bien que s'il rentrait pas dans la NUPES, il aurait des candidats NUPES contre lui au moment des législatives.
C'était vraiment la fin du PC,
Et là, ça allait être compliqué, parce que quand même, l'intérêt principal des communistes, c'est de garder les différentes positions qu'ils ont dans les leur municipalité, leurs députés, etc. Et puis, une fois que ça a été réglé, elle l'a tiré dans le dos de la NUPES à chaque sortie médiatique. Donc, c'est quand même... questionnable.
D'ailleurs, c'est monté dans les tours ces derniers jours en amont du congrès avec Roussel et Jean-Luc Mélenchon qui ont commencé à monter. Effectivement, Fabien Roussel, l'avant-veille, je crois, a refait une sortie anti-Mélenchon assez vulgose, assez. Voilà. Moi, je me souviens, ce jour-là, dans le chat, plein de gens disaient alors, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je leur disais, on est juste à 2 jours d'un congrès, les gars. C'est normal. À 2 jours d'un congrès, tu sors les muscles, tu dis aux militants, on est ensemble et tout. C'est normal. D'ailleurs, les insoumis l'avaient très bien compris. Ils ont dit, on répond pas. On répond pas. Il veut gagner son congrès, il va le gagner, etc. Bon, ça s'est quand même fini avec un tweet de Jean-Luc Mélenchon hyper vénère contre Roussel.
Ça va être le matin,
Sacha, du coup, je t'ai
coupé. Non, j'allais dire, la stratégie de Roussel, elle n'est pas totalement inefficace. Alors, c'est un sondage, ça vaut ce que ça vaut, mais l'IFOP sort ce matin un sondage pour Paris Première, dans lequel il est dit que parmi les personnalités les plus aptes à rassembler la gauche, tu as d'abord Jean-Luc Mélenchon, ensuite tu as Fabien Roussel.
Tu déconnes.
Et après, tu as Ruffin.
À combien Roussel ?
Tu as Roussel à 49%. Et c'est le numéro 1 parmi tous les Français.
Mais alors, ça, pour vous donner un...
Parmi tous les Français,
pardon,
je veux dire que c'est pas les gens de gauche.
Non, remarque, t'as raison, la première, c'était
les gens de gauche.
La première, pardon, c'était parti les sympathisants de gauche. Et pour la totalité des Français, pardon, c'est le premier, pour le coup.
Oui, d'accord, oui, je vois.
Mais ça, c'est lié. Antoine. Ça a été assez démontré, justement, que les enquêtes de personnalité, c'est lié à un facteur, la présence médiatique.
Oui.
C'est pas du tout des
uniquement la présence ou la perception?
Bah, c'est la présence médiatique et le fait de pas être trop, enfin qu'on ne tape pas trop dessus dans les médias. C'est les deux facteurs qui influencent ta montée en termes de cote de popularité. Mais c'est ça en aucun cas lié à de potentielles intentions de vote à part à la fête du barbecue.
On l'avait vu l'année dernière, c'est à double tranchant. On se souvient d'un médiatique chroniqueur qui lance une campagne présidentielle et qui finit par s'effondrer. Ça ne fait pas une candidature d'être connu dans les médias. On a un extrait effectivement de Fabien Roussel, un discours qui a fait réagir, c'est le discours de conclusion du Congrès devant ses camarades. Vous pouvez envoyer la régie.
Franchement, regardez ce qu'ils ont fait de notre pays ces dernières années. Ils ont mis la France sur le bon coin. Ils ont signé des traités de libre-échange à tour de bras. Ils ont transformé nos frontières en passoires et ouvert la France aux quatre vents, aux marchands et à la finance. Et aujourd'hui, ils reviennent la bouche en cœur en nous parlant de souveraineté, souveraineté, souveraineté. Non mais dites donc. C'est le grand déménagement industriel. Ils ont laissé filer nos usines, notre industrie. Et ils viennent nous parler de souveraineté.
Le grand déménagement aussi, hein. Il y a des dog whistles bizarres.
Mais du coup, c'est pour ça que je voulais qu'on le diffuse, parce que j'ai vu que ça avait fait beaucoup réagir. Est-ce que ça résume le roussellisme? Je sais pas, mais c'est effectivement deux expressions.
Alors, non, mais parce qu'il y a une séquence. Il y a une séquence.
Vas-y.
Frontière passoire, on sait que c'est un élément de langage vraiment extrêmement droite, quoi. Quand tu dis frontière passoire.
Dans le contexte.
Le
contexte, c'est pour ça que j'ai mis le contexte.
Du coup, tout le monde a dit oui, mais en fait, du coup, il parle de la finance. Donc, il parle de la circulation des biens et des marchandises, pas des personnes.
Ce qu'il a dit lui-même, oui.
Voilà, sauf le lendemain, chez Apolline de Malherbe.
Il a dit qu'il faut être plus dur
avec les migrants aux frontières, je sais pas quoi. Il a fait oui. Et là, il y a des militants qui sont un peu tombés de leur chaise en mode, mais nous, on l'a défendu en disant, il voulait parler de l'argent. Il parlait pas des gens. Et Loïc fait, oui, les gens aussi. Oui. Et il y a des gens qui sont en train de se dire, merde. Ça va un cran trop loin là, le délire.
Il a vu déjà deux trois petites paroles sympathiques sur Darmanin il y a quelques temps aussi, donc c'est quand même pas non plus son coup d'essai. Il essaye de parler à une catégorie de la population qui pense avoir des valeurs sociales mais des valeurs plus autoritaires sur les questions culturelles. Il essaye de faire de ça son fond de commerce.
Est-ce qu'on ne retrouve pas un peu de François Ruffin?
C'est un peu du valsisme.
Un peu du Ruffin?
Non.
Rappelle-toi, on l'avait reçu sur le plateau, on a eu cet échange avec lui où il reconnaissait
les Ruffin, il part pas dans les délires.
Il part pas dans les délires, mais il reconnaît que il y a toute une partie de l'électorat, notamment de tous ces territoires désindustrialisés, etc., qui se reconnaît dans un discours.
Les fâchés, pas fachos.
Ouais, mais là où
fâchés,
il est en train d'essayer de récupérer ces gens-là qui ne votent plus LFI non plus.
Là où il se trompe, c'est que pour faire ce qu'il croit devoir faire, hein, comme ce qu'avait théorisé Laurent Bouvet sur l'insécurité culturelle, pour faire ça, en fait, il va épouser élégamment toutes les obsessions bourgeoises de ses amis du printemps républicain, et qui sont des obsessions bourgeoises. L'obsession de la laïcité, les trucs qui vont plaire à Clavreux, Finkielkraut, et les autres. Et lui, il se dit, ça c'est ma voix, il a reçu Caroline Fourest, il en fait des caisses là-dessus, il est pote avec Cazeneuve, enfin, il a commencé à parler avec Cazeneuve, apparemment.
Oui. Ça, on va en parler avec Clémence Guettet, faut-il discuter avec
Bernard Cazeneuve? Mais ça, c'est des obsessions de bourgeois de salon. C'est les gens chez eux, ils pensent pas à, oh mon Dieu, la laïcité ou les trucs de, je sais pas, toutes les obsessions du printemps républicain, quoi. Les décoloniaux, machin, les gens, ils en voient pas dans leur vie des décoloniaux. Mais ça, c'est les obsessions de plateau et de bourgeois. Et il est complètement rentré là-dedans. Et là, il fait complètement fausse route s'il croit que ça a mobilisé les classes populaires. De toute façon, au résultat, ça a été son score à la présidentielle.
Oui,
génial, tout le monde l'aime bien, personne vote pour lui.
Oui, non, c'est ça.
Mais par contre, les bourgeois l'aiment bien. Et les gens sur les plateaux, ils sont contents de le recevoir parce que lui, il donne exactement le discours bourgeois. Il le donne.
Ce qui est ironique pour un premier secrétaire du Parti communiste.
Et ce qui est ironique pour quelqu'un qui croit que là, il va parler aux classes populaires. Ah ouais, en leur parlant comme Raphaël Antoven.
Non, mais on l'a vu effectivement, dans le sondage, il n'y a pas un boom Roussel qui réussit à capter cet électorat, notamment du mouvement social contre la réforme des retraites. À suivre en tout cas, parce que il a été confirmé à la tête du Parti communiste avec une ligne d'identification et d'autonomisation vis-à-vis de la France insoumise, ce qui ne va pas faciliter l'avenir de la NUPES dans les prochains mois, les prochaines années, qui a un énorme besoin de transformer l'essai. On l'a encore vu avec ce sondage. On en discutera tout à l'heure avec Clémence Guettet, notre invitée, qui est donc insoumise et qui a sûrement des trucs à nous dire là-dessus. Dis donc, j'ai vu un truc, il y en a un qui a sorti une tribune pour dire que le gouvernement faisait n'importe quoi.
Oh là là.
C'est
là
Dominique Strauss-Kahn, dis donc.
Oh là 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 là.
DSK, il a repopé pour sortir une tribune, un billet de blog, machin, pour dire n'importe quoi cette réforme des retraites, fait avec les pieds, pas le bon moment, pas la bonne méthode, pas le bon tempo, même pas la bonne réforme en fait, machin.
Même pas le bon président.
Qu'il avait été socialiste à un moment.
De quoi ?
Je dis, il s'est peut-être rappelé qu'il avait été socialiste.
Mais il était, ouais, il a été socialiste. Il était dans le même parti que Jean-Luc pendant 20 ans. Hein, non, c'est fou. Mais mais blague à part, dis donc, le gouvernement, ils se font lâcher par absolument tout le monde. Là, il y avait Attali aussi qui avait fait la une de Libé pour dire n'importe quoi cette réforme. Qu'est-ce que c'était pas pour DSK en particulier, mais Macron, il est en train de perdre tout le monde là, c'est fou.
Mais je pense que t'as Antoine. En fait, dans cette espèce de tripartition de l'espace politique entre un bloc éco-socialiste, un bloc libéral mondialisateur et un bloc national identitaire, t'as quelques personnes de l'ancien monde qui essayent de conserver une petite place et de conserver leur précaré. Alors ça se voit avec les Républicains qui sont en plus, avec toute la complexité de la chose. Et à côté de ça, tu vois quand même avec Cazeneuve, avec des sorties de Strauss-Kahn de ce genre-là, enfin même avec une partie du PS, avec Nicolas Meyer-Rossignol, etc., qu'ils essayent de recréer quelque chose et qu'ils n'ont pas compris finalement que l'état du pays était beaucoup plus enfin, sur ces trois blocs-là. Et pas seulement avec les formations politiques, mais quand tu regardes enfin, précisément les valeurs de la population, que tu vois qu'il y a ces trois blocs-là. Et qu'il n'y a pas d'espace pour cet ancien parti socialiste, pour ces républicains, et qu'ils essayent de surnager, mais surtout en coulant.
Après, ils croient en leur avenir. C'est-à-dire que ils croient en... on en a connu d'autres hein, qui ont commencé tout petit en disant j'y crois, etc. Je me souviens de Jean-Luc
Hollande.
Hollande, par exemple, commence à 5% qui finit président de la République, elle était belle. Alors, en parlant d'espace politique, Jean-Luc Mélenchon, en 2008, qui quitte le Parti Socialiste, 4 ans plus tard, c'est François Hollande qui est élu, tout le monde dit Mélenchon, il est mort. Oui. Regardez, le grincheux, il a tout perdu. Morale de l'histoire, aujourd'hui, c'est le patron de la gauche. Ouais. Donc en fait, moi, quand j'ai échangé avec Michael Delafosse, par exemple, le maire de Montpellier, qui fait plutôt partie de cette bande-là du Parti Socialiste, ils me disent tous, nous, on n'est pas, effectivement, on n'est pas dans l'actualité, mais on croit dans le fait que d'ici 10-20 ans, cette mode du populisme de gauche va disparaître, que cette colère sera stérile, et nous, charge à nous de proposer une alternative, etc. Je ne les défends pas, je dis juste qu'ils croient en leur avenir. Ouais. C'est beau.
Ah, mais je pense qu'ils y croient.
Ouais. La politique est faite de convictions, de gens qui y croient, et moi je postule la sincérité des
gens. Bien sûr. Mais le truc aussi, c'est que la gauche est quand même assez transformée. Tu disais populisme de gauche. Le populisme de gauche, effectivement, c'était la stratégie de Mélenchon en 2017. C'était encore un petit peu sa stratégie en 2022 au moment de la présidentielle. Mais encore que, mais derrière, au moment des législatives, c'était il crée quelque chose de nouveau, il crée une union de la gauche. Et donc, tu as quand même une évolution à ce niveau-là qui laisse il y a quand même un génie tactique à ce niveau-là qui permet peu aux autres acteurs de la gauche de pouvoir résister.
Dans les gens qui critiquent Emmanuel Macron, il y en a une qui a l'air aussi de vouloir faire vivre sa propre petite musique, c'est Elisabeth Borne. La première ministre qui, semble-t-il, n'est pas tout à fait d'accord avec l'Élysée sur la manière de parler, sur le tempo, sur la temporalité. Je crois que visiblement, l'interview là, d'Emmanuel Macron, diffusée sur Twitch, abonnez-vous, qui expliquait « on va continuer à marche forcée, c'est comme ça, c'est pas autrement ». Elisabeth Borne, j'ai l'impression qu'elle était en mode « Écoute, t'es gentil mon grand, mais enfin c'est moi qui me coltine derrière le reste, c'est moi qui suis à l'Assemblée qui me fait hurler dessus, c'est moi qui me bouffe des motions de censure à cette voix près. » Donc en fait, on va se détendre, on va plutôt accepter cette logique de main tendue, de berger, de dire, alors peut-être pas une pause sur la réforme, mais en tout cas, laissons les gens sortir avec les honneurs quand même d'un combat pas facile, etc. Enfin, j'ai l'impression que même...
reposer,
on va un peu se détendre là. Là, le coup de la marche forcée, je te jure que non, on va pas... Non, là, personne va forcer personne, tu vas te détendre. J'ai l'impression de traduire Elisabeth Borne, mais je la sens saoulée. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est même lâché par une partie de ses cadres,
En même temps, il a mal parlé d'elle, souvent. Hein. Ouais. Ça a été parce que Elisabeth Borne, qui était le choix de Alexis Kohler, il a dit des trucs comme « Ah, vous me l'avez vendue comme elle est géniale, et en fait, elle est nulle à chier. » Il a un peu dit un truc comme ça.
Oui, j'aurais dû prendre Vautrin. J'aurais dû prendre Catherine Vautrin à ce prix-là.
Putain, et c'est hardcore aussi pour elle. Bon, après, qu'est-ce qui se passe entre eux, ce qu'ils se font la tête et tout, on n'en sait rien, on s'en branle un peu. Oui. Ce qui compte, c'est est-ce qu'ils vont continuer, en effet, à marche forcée ou pas ?
J'appuie quand même sur un point. Là où je voulais en venir avec tout ça, c'est l'isolement d'Emmanuel Macron. Oui. C'est-à-dire que quand Attali, DSK, Elisabeth Borne, il y a un moment en off, tous les députés qui disent « va falloir vraiment qu'on change de méthode là ». Bon, tu me diras, ça fait 5 ans qu'ils le disent. Ouais. J'appelle à une nouvelle méthode, un acte 2 du quinquennat, oui. On a quelque chose. On a un moment où Emmanuel Macron semble perdre pied, y compris au sein de sa propre élite militante engagée dans son projet. Regardez ses déplacements à l'étranger, que ce soit à la Chine, que ce soit aux Pays-Bas. On a un Emmanuel Macron, DSK d'ailleurs, commence sa tribune en citant la presse internationale en disant « Mais en fait, le champion français de 2017 n'est plus du tout là. On a un mec totalement obtus et ça casse, en fait. C'est en train de casser, y compris vit avec son élite expatriée. C'est quand même assez spectaculaire, cet isolement d'Emmanuel Macron, non ?
C'est logique. Quand tu disais les cadres, c'est assez logique, parce que d'un certain côté, Emmanuel Macron ne sera pas candidat en 2027. Hein.
Donc, ah, t'as raison. Ouais,
donc la différence, c'est que jusqu'à la précédente élection, t'avais quand même le côté « c'est lui le chef », donc vaut mieux rester dans son sillage plutôt que de tenter d'avoir une aventure personnelle. Mais maintenant que bon, il y a des ambitions aussi personnelles qui se créent et donc et qui essayent aussi de se différencier, se distinguer d'Emmanuel Macron, vu le manque de popularité qui est le sien à l'heure actuelle.
Il y a quelqu'un qui dit « j'ai l'impression que c'est une lente descente, mais il n'en a pas besoin, il trace son chemin ». C'est ce que moi j'analysais et ce que j'ai déjà essayé d'expliquer, c'est que selon moi, comme Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027, il est dans une logique, il se fout de l'impopularité, c'est pas son sujet, c'est pas son enjeu. Il est dans une logique de « je vais rendre les clés du pays en 2027, je veux qu'en 2027, la France soit dans un état précis ». En fait, c'est ça. C'est quoi qu'il en coûte.
Ouais.
Je veux un bateau de chômage, quitte à avoir plein de gens en formation professionnelle, etc., ou des exclus machin.
Plein de pauvres aussi.
Oui, c'est ça. Quitte à précariser les emplois. Je veux une maîtrise des comptes publics, quitte à brusquer tout le monde avec une réforme des retraites qui était franchement pas si urgente que ça. Je veux un retour de l'industrialisation avec des capitaux qui viennent du monde entier parce que la France est de retour, Francis Back, machin. Je veux la France qui soit dans les objectifs bas carbone des accords de Paris. Je laisse les clés du pays, l'histoire me jugera, ciao, bye bye. Vous pouvez me reprocher tout ce que vous voulez. Ce qu'on retiendra, c'est Macron le réformateur, le petit Napoléon, etc. Moi, pour moi, c'est
vous l'aurez eu votre Startup Nation. Quoi.
Vous l'aurez votre Startup Nation. Ça va coûter un fric fou. Démocratiquement, ça va coûter un fric fou, une énergie dingue en termes de crispation du pays, en termes de précarité aussi des travailleurs. Mais lui, son enjeu n'est pas là. Il veut être le Gerhard Schröder français, il veut être le Tony Blair, celui que, 30 ans plus tard, quel souvenir on en garde. Ah, c'était quand même bien, quand même quelqu'un qui bougeait, etc. Quand je dis ça, c'est...
Oui, non, mais je sais pas. Ouais. Voilà. Mais j'imagine ces gens qui disent... C'était bien Macron, quand même. Il y allait, hein. Ah, puis les petites phrases tout le temps.
Mais il avait du panache quand même, il était beau garçon. On verra la saison de 22 de Backseat.
Ouais.
On débriefera. Vous vous souvenez de Macron? Ah ouais,
vous vous souvenez de
Macron à l'époque? C'est vrai qu'à l'époque... Non, j'en sais rien. Écoutez, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que Macron est dans cette logique-là.
Ouais.
Une logique de toute façon, je vais pas être candidat. Oui. Donc, impopulaire, rien à foutre, c'est pas mon enjeu. Par contre, voilà le pays tel que je vous laisse. Ciao, bye.
Je me souviens, on en avait parlé ici. En fait, il a une obsession, c'est ne pas finir comme Jacques Chirac et son deuxième mandat. Jacques Chirac n'avait rien pu trop faire à la fin de son deuxième mandat. Et son obsession, c'est vraiment de laisser quelque chose, d'achever, je ne sais pas, mais de dire il a fait quelque chose.
Ouais.
Oui. Il est même plus perçu comme ça, en fait. C'est que, tu vois, quand tu regardais les traits d'image qui lui étaient associés jusqu'à la précédente élection, c'est quelqu'un qui n'est pas proche de la population. Mais par contre, c'est un réformateur.
Ah oui.
Il a la stature d'un chef de l'État.
Il est compétent.
Il est compétent. Mmh, ouais. Alors maintenant, quand tu regardes les mêmes traits d'opinion, il est toujours aussi peu proche de la population, voire encore pire, on se demande pourquoi. Et derrière ça, par contre, toutes les qualités qui lui étaient prêtées de réformateur, de capable de gouverner le pays, c'est en chute libre.
Il est plus considéré comme compétent.
Non,
non mais c'est vrai, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est quand même un problème parce que le principe du macronisme, c'était un peu d'être en marche. Et de quand si t'es immobile, ça c'était une belle métaphore. S'il est immobile et qu'il n'arrive plus à faire quoi que ce soit, l'essence même de son mouvement et de son positionnement, il n'a plus aucun sens.
Le Mozart de la finance n'est pas un Mozart politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il paye sans doute son absence de carrière politique où il n'a jamais été élu, il n'a jamais été confronté à l'altérité, à la conflictualité, etc. Il n'est pas habitué à ça. Ça fait 6 ans maintenant qu'on le dit quand même. Donc
dans le chat, il cite Thatcher, tu vois, si c'est pour laisser une mémoire comme ça d'un président brutal où les gens se plaisent aujourd'hui à dire je vais pisser sur la tombe de Thatcher, quoi. Si c'est ça qu'il va laisser comme image, c'est pas ouf. Puis surtout, quelle France il va laisser? Quelle France il va laisser à Marine Le Pen? C'est terrible.
Il y a rien qui disait que dans le chat qu'il serait chroniqueur pour Backseat dans 20 ans. Prends ou pas?
Emmanuel Macron, est-ce qu'il sera un Mozart de Twitch, tu vois, qu'il envoie un CV, on verra ses compétences. On verra, j'y crois pas trop, mais on verra. Non, il y avait... tu voulais nous parler aussi, Antoine, de... Je change de sujet, mais une note aussi de la Fondation Jean Jaurès sur...
Mais
je lis, moi, les notes de la Fondation Jean Jaurès, c'est incroyable. Sur les climato-complotistes, qui se rapprochent de plus en plus de l'extrême droite, dis donc.
Oui, bizarrement.
Étonnant.
Oui, alors, faut quand même prendre ce terme avec des pincettes. Bien que j'ai fait un bouquin sur le complotisme, mais j'aime pas forcément ce terme. Alors, quand même, on est... C'est que le complotisme, en gros, c'est de penser que derrière tous les grands événements, t'as une minorité d'individus cachés qui agissent dans l'ombre et qui sont à l'origine de ces événements-là. ce que tu vois à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, tu as une partie de la population qui n'est pas négligeable, qui remet en question le fait qu'il existe vraiment un changement climatique, en tout cas que l'humain serait à l'origine de ce changement climatique. Tu vois, par exemple, tu as 41% des Français qui disent que les élites ont pour projet d'instaurer une dictature sanitaire, où c'est une manipulation.
40%.
Enfin, ouais, c'est une stratégie de manipulation du peuple par les élites, comme le Covid ou comme la guerre en Ukraine. Et en fait, je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ces chiffres quand même, mais ce qui montre que tu as une partie de la population où le premier stade, c'était « on n'a plus confiance dans les élites pour nous gouverner ». Maintenant, le second stade, c'est on n'a plus confiance dans les élites, ne serait-ce que pour nous informer, pour nous donner des informations qui soient vraies. Et ça, sur la question du climat, c'est quand même extrêmement problématique. Donc oui, tu as cette montée-là de ce phénomène en France qui interroge et qui pose effectivement problème.
À suivre en tout cas. Il y a d'autres notes de la Fondation Jean Jaurès que j'ai pas lues.
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Il y en a une qui dit que si vous faites un don à Baxit, vous avez le poil plus soyeux et la peau plus douce. Voilà, ça a été prouvé scientifiquement.
Juste sur ce point-là, pour rajouter un truc, c'est que je pense que cette défiance que tu as par rapport au discours, scientifique sur le climat, c'est aussi lié au fait que tu as une impression dans la population que c'est seulement les pauvres qui payent la transition climatique.
C'est eux, c'est une impression.
Non, complètement, mais tu as ça qui est en jeu. Et à côté de ça, quand tu vois, si tu reprends par exemple l'exemple des jets privés, ou quand la conférence de presse où le journaliste demande à Galtier, à Mbappé, oui, est-ce que vous allez prendre le bus plutôt que de prendre l'avion, et que l'autre nous sort, non, ça va être, on ne va pas y aller en char à voile quand même. Enfin, ça crée une impression de déconnexion, et que finalement, les gens à qui on demande de baisser le chauffage pour répondre aux problèmes, ils sont un peu pris pour des cons.
Et de changer de bagnole, etc.
Pour le dire plus clairement. Et du coup, ça délégitime tous les discours qui sont beaucoup plus sérieux sur cette question-là.
En tout cas, on a un paquet de sujets qu'on abordera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission où nous recevrons notre invitée politique. Ce sera la députée du Val-de-Marne insoumise, Clémence Guettet. Mmh.